Bonjour à tous, l'évaluation scolaire. Bon, c'est un passage obligé, hein, souvent perçu comme un peu stressant.
Oui, c'est clair, une source de pression.
Et si le numérique pouvait changer un peu cette perception?
C'est tout l'enjeu, en fait. Alors aujourd'hui, on va explorer ça. Comment ces outils peuvent vraiment transformer les pratiques d'évaluation? On s'appuie pour ça sur la synthèse d'un webinaire assez riche.
Oui, une bonne base de réflexion.
Le but, c'est de comprendre comment le numérique peut rendre l'évaluation, disons, plus fréquente, plus formative.
Et plus engageante aussi. Mais attention, sans oublier les précautions nécessaires.
Bien sûr. Alors, justement, cette évaluation formative, c'est le cœur du sujet, non? Inspiré par Franck Sylvestre, notamment.
Exactement. L'évaluation formative, son but premier, c'est d'améliorer l'apprentissage. En cours de route, pas juste de mettre une note à la fin. D'accord. Et comment le numérique facilite ça, concrètement?
La source parle d'un processus en trois temps.
C'est ça. D'abord, première étape, interroger la classe. Chaque élève répond individuellement et, point important, indique son niveau de confiance.
Ah oui, la confiance. C'est intéressant, ça, comme indicateur.
Très précieux, oui. Parce que ça donne une autre dimension à la réponse. Puis, deuxième étape...
La confrontation.
La confrontation.
Oui, mais anonymisée. On confronte les points de vue. Chaque élève voit les réponses des autres, sans savoir qui a dit quoi. Ça crée ce qu'on appelle un conflit socio-cognitif.
Ça pousse à réfléchir sur sa propre réponse, sans la pression du regard des autres, c'est ça?
Moins de biais.
Voilà.
Les biais d'autorité, de conformisme, tout ça est atténu. Et ça favorise une posture réflexive chez l'élève.
Et la troisième étape, alors?
La troisième étape, c'est l'affichage des réponses et le feedback, soit par le prof, soit via une discussion collective.
Ce qui permet un retour rapide, ciblé, j'imagine.
Et pour l'enseignant, de voir où ça coince et avec quel niveau de certitude.
Exactement.
Si beaucoup d'élèves très confiants se trompent, une simple discussion entre pairs risque de renforcer l'erreur. Donc l'enseignant adapte son intervention grâce à cette info. On sort de la passivité, quoi.
C'est clair. Et concrètement, ça donne quoi sur le terrain? Même en maternelle, apparemment, hein?
Oui, même en maternelle. Là, on parle d'usage de tablettes pour observer, documenter les apprentissages. Photos, audio, petites vidéos.
Sans notation chiffrée, j'imagine?
Ah non, pas de notes. L'idée, c'est de créer un carnet de suivi numérique, personnalisé pour valoriser l'élève, suivre ses progrès et communiquer avec les familles aussi.
Avec les précautions RGPD nécessaires, bien sûr. La source insiste là-dessus.
Absolument. Usage hors ligne, transfert via l'ENT, c'est cadré. Et en EPS, par exemple, on cite l'outil ELEA.
Pour faire quoi, alors?
Des tests de connaissances interactifs. QCM, glisser-déposer, l'élève peut les refaire, s'entraîner à la maison ou en classe. Et il y a aussi un carnet d'entraînement où l'élève note son ressenti, ses difficultés.
Ah, ça renforce encore le côté acteur de l'élève, ça. Comme l'usage de la vidéo au collège pour préparer l'oral du brevet, non? Se filmer, s'auto-évaluer avec une grille.
C'est ça. L'autonomie, l'auto-évaluation et même le travail entre pairs sur les compétences numériques. Les possibilités sont vraiment variées.
Alors, on a vu le formatif, les exemples. Parlons un peu d'intelligence artificielle. Ça fait beaucoup parler.
Oui, et les intervenants du webinaire, comme Almira et Sylvestre, soulignent à la fois les opportunités.
Et les risques.
Les opportunités d'abord.
Les parcours adaptatifs, le tutorat intelligent, l'aide à l'évaluation, la correction automatisée pour certaines tâches.
Et les risques? J'imagine qu'il y en a.
Bien sûr. Le risque d'accroître les inégalités, la désinformation, la limitation des relations sociales aussi. Peut-être même un frein à l'imagination si c'est mal utilisé.
Donc il faut des garde-fous, c'est évident. L'enseignant doit rester maître à bord.
Totalement. L'IA peut aider, ponctuellement, donner un feedback rapide par exemple, mais elle ne remplace pas la réflexion de l'élève ni le rôle de l'enseignant. Transparence et contrôle humain sont essentiels. D'accord. Et pour synthétiser les bénéfices plus généraux du numérique, Yannick Almera s'en parlait?
Oui, il résume bien. Pouvoir capturer des traces pour observer plus tard, le feedback en temps réel, visualiser la progression, les outils pour co-construire aussi. C'est précieux. Mais il y a des freins, quand même.
Ah oui, le temps de préparation et d'analyse pour les profs, c'est énorme. L'accès au matériel, qui n'est pas égal partout, et parfois un cadre d'évaluation un peu rigide qui limite l'envie d'expérimenter. Et puis, il y a ce point crucial, l'outil pour l'outil, ça ne sert à rien.
Exactement, c'est l'intégration pédagogique qui compte. Et attention à ne pas surcharger les élèves avec trop d'outils différents, la fameuse surcharge cognitive.
Bon, Si on résume, le numérique, ça offre de vraies pistes pour dynamiser l'évaluation, la rendre plus fréquente, plus souple, donner des retours rapides, suivre les progrès de façon visible.
Oui, impliquer l'élève, réduire certains biais sociaux et faciliter la communication avec les familles aussi, c'est un plus. Mais les défis sont là. Le temps, le matériel, la formation, les questions éthiques autour de l'IA et surtout cette intégration pédagogique. Il faut que ça serve vraiment l'apprentissage, voilà. Que ça reste au service de l'élève et de sa réflexion. C'est ça l'essentiel.
Et pour finir, peut-être une petite question pour la route. Si le numérique nous aide à voir ce qu'un élève sait, est-ce qu'il pourrait aussi nous aider à mieux comprendre et, pourquoi pas, valoriser comment il apprend et la confiance qu'il se construit ?
C'est une excellente question. Cette dimension de la confiance, souvent invisible.
Voilà. Une piste à creuser. De quoi nourrir nos réflexions.